18h-19h30, RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Bonsoir à tous. La France va-t-elle prolonger de 10 ans la vie de ses centrales nucléaires? Ségolène Royal y est prête. La ministre de l'écologie assure que c'est compatible avec la promesse de baisser la part de l'atome en France. Beaucoup en doutent. Explications et réactions dans un instant. Au salon de l'agriculture, encore un incident ce matin. Le stand du numéro 1 de la viande, Bigard, pris pour cible par des éleveurs en colère. Mais ce que l'on retiendra surtout de la journée, c'est la foule porte de Versailles, très nombreuse. Dans le replay du Grand Jury à 18h20, on entendra Xavier Bertrand. Le président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie se dit favorable à la création de zones franches en milieu rural. Tant que durera la crise, pas de cotisation sociale pour les agriculteurs en difficulté. Dans ce journal également, l'imagination sans limite de certains voleurs du métro. L'image des bleus de Didier Deschamps, toujours écornée selon le baromètre Odoxa Winamax RTL. Le français Alexis Peintureau qui remporte sa deuxième épreuve en trois jours en Coupe du Monde de ski. Et puis bien sûr les Oscars du cinéma la nuit prochaine, Hollywood sur son 31. Une phrase sur toutes les lèvres, Leonardo DiCaprio va-t-il enfin être couronné? Football, 0-0 entre Nantes et Monaco en début d'après-midi. Ajaccio OM, je vous le rappelle, a été reporté en raison des pluies en Corse. Depuis 17h, Saint-Etienne reçoit Caen sous les yeux de Serge Pueyo. Bonsoir Serge.
Bonsoir, c'est la mi-temps ici à Geoffroy Guichard. Domination stéphanoise, mais toujours 0-0 au tableau d'affichage entre Saint-Etienne et Caen.
Merci Serge Pueyo. Ce soir, dernière rencontre de la 28e journée. Lyon-PSG à 21h. Il y avait également du rugby cet après-midi dans le top 14. Toulouse-Montpellier, match presque terminé. Montpellier mène 31 à 24 face aux Toulousains. À Vincennes, le Grand Prix de Paris remporté par le trotteur Lionel. Il prive Bold Eagle de la triple couronne. Combinaison gagnante du quintet 8, 14, 11, 13 et 5. Les retours de week-end et de vacances. Les écoliers de la zone A reprennent les cours demain. Bon courage à eux. La zone B, elle, entame sa deuxième semaine. Quelques bouchons, Charles Dodon?
Oui, même si dans l'ensemble, ça se passe bien. Sur les principaux axes et à l'approche des grandes agglomérations cette fin d'après-midi, notamment pour les Bordelais, les Lyonnais ou les Clermontois, pour qui les congés se terminent, à signaler tout de même quelques ralentissements pour les Franciliens qui rentrent de la région Rhône-Alpes sur l'A6 à Fresnes au nord de Beaune, dans le secteur de Pouilly-en-Ossois, et à l'arrivée en région parisienne à Évry et puis en Rhône-Alpes. Coup de frein sur l'A43 après Chambéry avec Belette.
Merci Charles. Et puis petit lapsus, c'est la zone C qui entame sa deuxième semaine de vacances. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
La Corse est depuis plusieurs heures sous des trombes d'eau.
Oui, et c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de pluie à l'heure qu'il est. Ça va durer une grande partie de la nuit et en fait jusqu'à demain soir finalement, même si demain dans la journée ce sera un peu moins fort. Ces pluies remontent aussi vers les régions méditerranéennes continentales, notamment les Alpes-Maritimes, mais en perdant de la puissance quand même.
Merci Valérie. Prévision complète pour toute la semaine, dans un quart d'heure.
Philippe Robuchon,
RTL dimanche soir.
Ségolène Royal est la ministre de l'écologie, elle est aussi, on l'oublie, ministre de l'énergie. Et c'est à ce titre qu'elle a fait à la mi-journée une déclaration qui provoque déjà pas mal de réactions. Elle se dit prête à donner le feu vert à un prolongement de 10 ans de la durée de vie des centrales nucléaires françaises. Bonsoir Quentin Vinet.
Bonsoir.
On va voir dans un instant les réactions. D'abord, ça mérite quelques explications.
Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les centrales nucléaires sont conçues en France pour tourner pendant 40 ans. Mais EDF, par la voix de son patron, demande de pouvoir pousser jusqu'à 50 ans. Et c'est à cela que la ministre de l'Environnement et de l'Énergie répond oui.
Je suis prête à donner ce feu vert, sous réserve bien évidemment de l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire. Pourquoi ? Parce que les Français ont beaucoup investi pendant des années sur les réacteurs nucléaires.
Voilà, l'autorité de sûreté nucléaire, vous l'entendez, doit encore donner son aval. Mais déjà, Jean-Marie Chevalier, économiste, spécialiste des questions d'énergie, explique qu'il faudra voir au cas par cas.
La durée de vie des centrales ne sera pas la même pour chacune, parce que nos centrales, elles sont différenciées. Certaines ont plus ou moins des fissures ou des défauts, etc. Et donc, il faut être très pragmatique. Hein. Il faut voir pour chaque centrale, l'état de la centrale, ses capacités à durer plus longtemps et ce que ça représente en termes d'investissement.
Et invité sur France 3, Ségolène Royal dit aussi que ce prolongement de 10 ans s'inscrit dans un contexte de baisse du nucléaire. Souvenez-vous, d'ici 2025, avec la loi de transition énergétique, le nucléaire ne pourra fournir que 50% de l'électricité en France, ce qui va contraindre EDF à fermer deux centrales.
Merci Quentin Vinet pour ces explications. Alors parmi toutes les réactions à l'annonce de Ségolène Royal, celle de la porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, elle s'appelle Charlotte Mijon. Écoutez.
Notre réaction, mais si, mais pour qui se prend-elle? Elle est en train de choisir les intérêts d'EDF contre les intérêts des citoyens. Cette déclaration est complètement contraire aux objectifs de la loi de transition énergétique, qui suppose donc de réduire la part du nucléaire à 50% d'ici à 2025. C'est complètement illusoire d'espérer y parvenir sans fermer de réacteurs. Les centrales nucléaires à l'origine ont été conçues pour une durée d'environ 30 ans. Les centrales, elles ont une durée de vie limitée. On ne peut pas les pousser comme ça, les prolonger ad vitam aeternam, ce n'est juste pas possible. Donc on continue avec un modèle énergétique du passé qui est dangereux, qui est coûteux, et on a une ministre qui décide de nous maintenir dans un modèle énergétique du passé. Et ça, c'est inacceptable.
Charlotte Mijon, la porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, jointe par vous, Quentin Vinet. Toujours dans le domaine de l'énergie, entre 10 et 15 000 personnes ont participé aujourd'hui à Barjac, dans le Gard, à un grand rassemblement contre l'exploitation du gaz de schiste. Parmi eux, des élus, le nouveau patron d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand, mais surtout beaucoup d'anonymes, parfois venus de toute la France. Écoutez ce reportage pour RTL d'Aline Thibal.
Leur pancarte à la main, venus en famille souvent de l'Ardèche, du Gard, du Vaucluse, de l'Hérault, de la Drôme ou même de Belgique, comme Pierre, un professeur en retraite qui a vécu longtemps aux États-Unis dans l'Ohio. Ils sont là pour le réaffirmer. Gaz de schiste, nos passerades.
Nous avons vu le désastre que ces techniques engendrent et nous ne tenons pas à ce qu'on recommence le même scénario ici en France. Les sous-sols sont pollués, les gens n'ont plus d'eau dans de bonnes conditions. Les animaux sont atteints.
Norbert, lui, est ingénieur chimiste. Il vient de Lyon pour dire stop.
J'assume le fait d'être ingénieur chimiste, mais je connais bien trop les saloperies qu'il y a là-dedans. Il y a au moins une quarantaine de produits très toxiques qui interviennent au cours de la fracturation hydraulique et qu'on retrouve dans les eaux ensuite et qui resteront des milliers d'années là-dedans. Non, c'est une catastrophe.
Et puis il y a ces dizaines d'élus de petites communes comme Hervé Auzille, le maire de Lagorce, classé au patrimoine mondial de l'humanité.
Nous avons un patrimoine naturel exceptionnel, des productions agricoles exceptionnelles. Ce patrimoine naturel, nous, on ne le met pas en banque. Il est impensable pour nous de laisser venir des entreprises pétrolifères.
Et tous réclament aujourd'hui une loi pour interdire totalement l'exploitation des gaz de schiste.
Un reportage d'Aline Thibala, Barjac dans le Gard pour RTL. Deuxième jour du Salon de l'agriculture. Après les incidents d'hier, Xavier Belin, le président de la FNSEA, s'est excusé ce matin au nom de son syndicat. Excuse pour les noms d'oiseaux adressés à François Hollande, pas pour le démontage du stand du gouvernement. Ce matin, nouvel incident, porte de Versailles. Une quinzaine d'éleveurs bovins s'en sont pris au stand de Charal. C'est la marque du groupe Bigard, numéro 1 de la viande en France, pour dénoncer, je cite, la politique de prix beaucoup trop bas. Pas de casse, mais une action spectaculaire avec farine et extincteur. Cela n'a pas empêché, aujourd'hui, la foule, le grand public, de se presser comme jamais dans les travées du salon, peut-être l'effet cerise. Élodie Guillard, vous confirmez, on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre aujourd'hui.
Ah oui, Philippe, les allées étaient noires de monde. Et face à un gros taureau marron foncé, Djibril a les yeux écarquillés. Le petit garçon de 5 ans habite la Défense, près de Paris. Accompagné de son grand-père, il fait donc connaissance avec cet étrange animal.
Ils sont balèzes, ils sont gros et très très gras. C'est la première fois que j'en ai vu un qui a des grosses cornes. Ils sont dangereux.
Ils ont déjà vu des vaches, mais de loin. Mais les approcher de près, c'est la première fois. C'est qu'un régal. Hein.
Et si certains vont de découverte en découverte, d'autres sont des fidèles. Hélène n'a pas raté un salon depuis 10 ans.
J'aime l'ambiance du salon, j'aime bien voir les animaux, et puis bon, c'est un endroit assez représentatif de la France, quoi.
Et c'est justement pour faire plus ample connaissance avec la France qu'Adenia, originaire de San Francisco, est venue ici. Jamais aux États-Unis, elle n'a vu un tel événement.
Je pense que c'est une bonne initiative. Il n'existe pas une grande fête pour tous les gens et pour un salon d'agriculture. Ça, c'est super bizarre pour moi, mais je pense que c'est intéressant aussi. C'est incroyable. Il y a plein d'animaux. C'est super.
Voilà, et l'an dernier, près de 700 000 visiteurs ont foulé les allées du Salon de l'agriculture.
Élodie Guillard en direct du Salon Porte de Versailles à Paris pour RTL. Merci. C'est apparemment une première en France. Un jeune homme de 22 ans, originaire d'Aix-en-Provence, est en prison pour avoir créé un site de streaming illégal. Le streaming, je vous rappelle ce que c'est un site internet qui vous permet d'avoir accès à des musiques, à des films, sans les avoir au préalable enregistrés. Le site en question, fullstream.net, est l'un des sites francophones les plus visités au monde, tenez-vous bien. Il permettait l'accès à plus de 10 000 films et 2 500 séries télé. Le problème, Étienne Baudu, c'est que ça se faisait en tout
toute illégalité. Son créateur, le créateur de ce site, ainsi qu'un habitant de Grenoble, plaçait les bénéfices dans des paradis fiscaux.
Écoutez, oui, pour passer une bonne soirée télé, vous aviez l'embarras du choix sur ce site, l'un des sites francophones les plus visités. Oui, mais voilà, la plupart de ces films et séries sont protégés par des droits d'auteur. Et vu l'ampleur de l'infraction, la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, porte plainte contre le site en 2014. Et ce sont les gendarmes spécialistes en lutte contre la cybercriminalité qui mènent depuis Marseille les investigations. C'est ainsi qu'ils identifient deux suspects. L'un est basé à Grenoble et n'aurait apporté qu'une aide technique. L'autre habite à Salon de Provence, près de Marseille. Il est âgé de 22 ans seulement et aurait créé le site en 2013 depuis son domicile. Et il en aurait tiré de juteux bénéfices grâce à la publicité. On parle d'1 million d'euros. Il aurait d'ailleurs ouvert des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Et attention pour la justice, ce n'est pas une comédie, mais un thriller très sérieux. Le jeune Salonnais a été mis en examen et écroué. Le site a été fermé, mais il en existe beaucoup d'autres.
Étienne Baudu pour RTL.
Philippe Robuchon jusqu'à 19h30.
RTL dimanche soir.
Il est 18h12 à Paris. Un petit groupe de 6 personnes, des détrousseurs du métro, arrêtés ce matin à la station Tuileries. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Rien d'exceptionnel, si ce n'est le mode opératoire. Ils ont fait croire à une attaque terroriste pour mieux voler les voyageurs.
Oui, jouer sur les peurs pour mieux faire les poches, sans aucune limite morale. 11h30 ce matin, station Tuileries, la rame de la ligne 1 est taquée. Le groupe de 6 personnes fait alors exploser de gros pétards dans le métro. Les passagers sont désorientés, paniqués. Les détonations font immédiatement penser à une attaque terroriste. Les détrousseurs profitent de la panique pour leur faire les poches. Une fois leur larcin commis, les pickpockets prennent la tangente, mais dans leur fuite, 4 d'entre eux, 4 jeunes femmes, sont rattrapées par les forces de l'ordre, du jamais vu, confient les policiers. Mise en danger de la vie d'autrui, tentative de dégradation, violence volontaire et interruption de trafic. Les faits retenus sont très lourds et pourraient leur valoir des peines de prison ferme. Le montant du butin n'est pas connu pour le moment.
Merci Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. À l'étranger, la trêve à peu près respectée en Syrie, même si on en a enregistré quelques bombardements, notamment dans le nord du pays. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite accuse la Russie et le régime de Bachar et l'Assad d'en être à l'origine. Mais globalement, les combats ont nettement diminué d'intensité depuis 2 jours. En Suisse, une votation aujourd'hui. La droite populiste avait proposé que les criminels étrangers soient automatiquement expulsés. Eh bien, le texte a été rejeté à 59%. En Suède, un triste anniversaire aujourd'hui. Il y a 30 ans, jour pour jour, le Premier ministre Olof Palme était abattu d'une balle dans le dos. Il faisait la queue, comme tout le monde, devant un cinéma. Plusieurs hommages lui ont été rendus aujourd'hui à Stockholm. 7 Français sur 10 ne veulent pas de Karim Benzema dans les Bleus qui joueront l'Euro 2016. C'est le résultat le plus spectaculaire du baromètre sport Odoxa réalisé pour RTL et Winamax que nous vous avons révélé ce matin. C'est évidemment l'effet de la fameuse affaire du chantage à la sextape. Autre résultat, la majorité des personnes interrogées ne croient pas à une victoire des joueurs de Deschamps en juillet prochain. Les Bleus gardent d'ailleurs une image assez mitigée. Ce qui est intéressant, c'est que les Français en général et les joueurs du dimanche ne sont pas forcément du même avis. Tous ceux qui pratiquent le foot ont tendance à être beaucoup plus cléments avec les internationaux qui commettent un faux pas. Antoine Jeufin s'en est rendu compte cet après-midi. Écoutez les footballeurs amateurs qu'il a rencontrés sur un terrain parisien du quartier de Ballard.
On était énervé, genre contre les Benzema, quoi. Genre histoire à Valbuena, mais au fond, on s'en fout. On fout ce qui compte, quoi, sur le terrain. Donc on les soutient.
Moi, je suis pour mon pays avant tout. Avec n'importe quel joueur qui aura dedans, je supporterai toujours mon pays. Après, c'est sûr que c'est dérangeant quand on voit les affaires comme ça.
Je les aime pas parce que je crois qu'ils se comportent comme les plus forts, quoi. Ils me donnent pas envie. Je pense que je les supporterai. Je pense. Hein.
J'ai mes places pour les matchs des Bleus, donc je serai là. J'aurai mon maillot des Bleus et je chanterai la Marseillaise à chaque minute. Je ne supporte pas les joueurs des Bleus, je supporte l'équipe de France.
Et ceux qui connaissent le foot savent que depuis qu'on a battu l'Ukraine 3-0, on s'est qualifié. L'équipe de France, elle est là, elle est présente, il y a un nouveau état d'esprit. Si sur le terrain, ils sont exemplaires, je comprends pas pourquoi on ne supporte pas l'équipe de France.
Allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus.
Voilà, on reviendra sur ce sondage Odoxa Winamax pour RTL dans RTL en direct de l'équipe avec Jean-Michel Rascol à partir de 19h30. Le football, on y revient avec la Ligue 1 en direct. Je vous rappelle le match nul entre Nantes et Monaco cet après-midi. Je vous rappelle également qu'Ajaccio OM a été repoussé à une date ultérieure à cause de la pluie en Corse. La deuxième mi-temps de Saint-Étienne-Caen, à présent Serge Peuillot.
Oui, 55e minute de jeu au stade Geoffroy Guichard. Toujours 0-0 entre Saint-Étienne et Caen. Les Verts qui se sont créés pas mal d'occasions, notamment en première période, avec notamment Bayal Sall qui a repris un ballon qui est passé au-dessus de la cage de Vercoutre. Soderlund également, le Norvégien, au-dessus de la même cage canaise en seconde période. En revanche, c'est Andy Delors côté canet qui a adressé un tir qui a frôlé la cage de Ruffier. Donc un match très ouvert. Attention, les canets qui sont encore là, encore un arrêt de Ruffier là devant un attaquant canet qui a armé son tir. 0-0 toujours entre Saint-Étienne et Caen.
Merci Serge Peuillot. Et puis le rugby, c'est fini à Toulouse et c'est Montpellier qui l'a finalement emporté, mais de justesse, 31-29. Une fin de match totalement folle avec une bagarre générale, mais c'est quand même Montpellier qui l'emporte, 31-29. En ski, les Français sont en forme, série de bons résultats ces dernières heures. Chez les femmes, Anne-Sophie Barthet a remporté le premier podium de sa carrière à Sol 2 en Andorre, en super combiné. Autre résultat quasi historique, celui-là, chez les hommes, Alexis Pinturo a gagné sa troisième course d'affilée en Coupe du Monde, la deuxième en trois jours, lors du slalom géant en Autriche. Il faut remonter à 1967 pour retrouver pareil exploit chez les Français. Écoutez le skieur de Courchevel, Alexis Pinturo, joint par Jean-Michel Rascol.
Avoir gagné la première manche et avoir un peu d'avance, c'est beau parce que voilà, il y a quand même un peu d'avance, on peut dire, mais c'est infime finalement dans notre sport. C'est-à-dire que ça peut tout de suite être remis en question et de manière intégrale et irrémédiable. Donc c'est pour ça que on sait ce qu'on doit faire, peu importe le moment et peu importe l'occasion. Il faut essayer de produire du bon ski et puis après. On voit en passant la ligne d'arrivée.
Est-ce que vous savez quel est le dernier skieur français à avoir gagné trois géants de suite ?
Je ne m'intéresse pas beaucoup à ça. Généralement, c'est plus vous qui vous y intéressez. Mais on me l'a dit à l'arrivée. Donc, du coup, il y a un peu moins de suspense. Hein. C'est Jean-Claude qui dit, du coup, le dernier.
Ouais, c'était en 1967.
Forcément, ça fait plaisir de lui succéder.
Voilà Alexis Pinturo sur les traces de Killy. Il était au téléphone de Jean-Michel Rascol pour RTL. Notez deux rendez-vous que l'on vous donne dans les prochaines heures sur RTL. Après la soirée foot, après le match Lyon-PSV qu'on va vous faire vivre dans le soir de Ligue 1, on vous propose une nuit Gainsbourg dont on va célébrer l'anniversaire de la mort mercredi prochain. 25 ans déjà que Gainsbourg a disparu. Émission spéciale au pluriel donc sur RTL de 23h à 3h du matin. 4h d'émission consacrée à Gainsbourg. Puis si vous aimez le cinéma, vous le savez, la nuit prochaine, c'est la cérémonie des Oscars aux États-Unis. Stéphane Boutsock, notre spécialiste ciné, vous la fera vivre à partir de 3h du matin dans RTL Petit Matin, puis avec Julien Cellier, puis avec Yves Calvi, puis enfin dans Laissez-vous tenter jusqu'à 9h30 demain matin. La grande question cette année, c'est Léo va-t-il avoir son Oscar ? Leonardo DiCaprio n'a, malgré sa carrière phénoménale, jamais reçu la statuette de meilleur acteur. Stéphane Boutsock, cette fois, l'injustice devrait être réparée.
Il a affronté le naufrage du Titanic, résisté à la chute des loups de Wall Street, échappé aux trafiquants de Blood Diamond. Dans The Revenant, il est même attaqué par un ours. Aucun défi ne semble trop grand à l'écran pour Leonardo DiCaprio, mais par trois fois déjà, l'Oscar du meilleur acteur lui a échappé. Tout le monde s'accorde à dire que cette année sera son année. Son rôle de trappeur survivant lui a déjà valu le Golden Globe et le BAFTA anglais. La statuette dorée hollywoodienne lui semble donc promise en 2016. Mais méfions-nous d'une académie qui, jusqu'ici, a bien été la seule à ne pas célébrer le talent fou du comédien le plus doué de sa génération. Trop arrogant, trop à gauche, trop écolo, trop gâté. On ne sait pas ce qui peut justifier l'absence de DiCaprio au palmarès des Oscars. Une anomalie de l'histoire du cinéma. Cette fois, la star a mis de l'eau dans son champagne et joué le jeu de la course au palmarès. Apparaissant à toutes les soirées qui comptent, serrant toutes les mains utiles lors de l'interminable campagne censée influencer les votants, sera suffisant ? Réponse vers 6h du matin, heure française.
Merci Stéphane Boutsock. On va vous retrouver tout à l'heure dans les dessous de l'écran sur RTL à partir de 19h. On jouera un match virtuel César contre Oscar, le jeu des différences entre les deux cérémonies. 18h19, Valérie Quintin, c'est à vous. L'info à l'heure qu'il est, c'est toujours ce mauvais temps en Corse, hein, des pluies torrentielles. Demain, attention, un fort coup de vent en Languedoc-Roussillon et toujours de la pluie en Corse.
Oui, alors si le temps va rester très médiocre, c'est vrai, en Corse, avec beaucoup de pluie, beaucoup de neige en montagne, des éclaircies timides vont quand même revenir sur les autres régions méditerranéennes, mais effectivement avec des vents très violents, des rafales jusqu'à 110, voire 130 km/h en pointe en Roussillon. Rafales qui pourront même atteindre les 160 km/h au Cap Béar, deux départements qui restent donc en vigilance à partir de la nuit prochaine et pour demain toute la journée. Le ciel sera passablement nuageux avec peu de pluie du sud-ouest au nord-est. On attend quelques flocons de neige en pleine d'Alsace, pas grand-chose. Et puis à l'arrière, sur le nord, l'Île-de-France et l'ouest du pays. Là, comme aujourd'hui, ce sera toujours à peu près bien ensoleillé. À noter enfin un risque d'avalanche très élevé en Savoie et dans les Alpes-Maritimes. Du côté des températures, pas de changement. Une fourchette de moins 2 à 10 degrés au réveil des Ardennes à la Côte d'Azur et de 4 à 15 en journée entre Belfort et Toulon.
Valérie, pour le reste de la semaine ?
Ça ne change pas grand-chose. Des températures stables, sauf dans l'ouest et dans le sud où ça va grimper un petit peu en milieu de semaine. Des éclaircies mardi, une dégradation pluvieuse quasi générale mercredi. Moins de pluie, mais beaucoup de grisailles jeudi. Et à nouveau des pluies vendredi, notamment pour la moitié nord. On aura donc encore des chutes de neige en moyenne montagne cette semaine. Et du vent aussi, beaucoup de vent toute la semaine en Méditerranée.
Décidément très agitée cette météo. Et on retient les 160 km/h attendus demain au Cap Béa. Prudence. Merci Valérie.